autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, en ce tout début d'année 2017 que je vous souhaite douce, joyeuse et riche de tous les possibles, des possibles que nous allons interroger ensemble aujourd'hui, en nous demandant comment imaginer l'avenir, notre avenir, à l'horizon 2030-2050, à partir des avancées scientifiques et technologiques. Qu'est-ce qui est envisageable et souhaitable ou pas? Comment le prévoir et le faire advenir? Voilà ce que nous allons nous demander avec nos invités, le consultant prospective Hugues de Jouvenel, président de l'association Futurible International et directeur de la revue du même nom, et le physicien Pierre Papon, conseiller scientifique de Futurible International, autour de la question « Comment construire l'avenir ?» Bienvenue. Bonjour Hugues de Jouvenel.
Bonjour.
Bonjour Pierre Papon.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous en ce 2 janvier pour faire un peu de prospective à long terme. Dans le numéro de décembre de la revue Futurible, dont vous êtes le rédacteur en chef, Hugues de Jouvenel, vous nous interrogez aussi sur les futurs possibles à l'horizon 2030-2050, en nous rappelant votre approche de la prospective. Si l'avenir ne peut pas se prévoir, il peut se construire, et ça c'est de notre responsabilité.
Absolument. Et c'est même le point de départ de ce qu'on appelle maintenant la prospective, qui n'a strictement rien à voir avec la prédiction, la prophétie et d'autres démarches vis-à-vis du futur. Nous, on parle d'un élément, d'un constat, qui est que l'avenir n'est pas déjà fait. Donc il n'est pas par essence prévisible, quelles que soient les méthodes qui seront utilisées, qu'il reste à faire. Et que c'est notre liberté et notre responsabilité que d'en devenir les artisans. Alors, dans la prospective, il y a, au fond, c'est quoi? C'est une philosophie de l'action, c'est de l'anticipation et l'exploration des futurs possibles au service de l'action, de la décision et de l'action, afin d'essayer d'éviter l'avènement de futurs néfastes et de promouvoir l'avènement de futurs souhaitables, sachant malgré tout que, suivant les personnes concernées, le souhaitable et le néfaste ne sont pas appréciés de la même manière.
Vous avez mis en place une sorte de dispositif de veille, prospective, sous la forme de rapport annuel, Vigie 2016, Pierre Papon, on pourrait dire en tant que vigie scientifique de Futurible. Que nous réserve l'avenir? Enfin, en gros, que peut-on attendre, espérer donc ou craindre des avancées et des recherches scientifiques?
Je poursuivrai ce que Hugues a commencé à expliquer sur la prospective. Et s'agissant de la science, elle aide à construire le futur. Elle aide à construire l'avenir. D'abord, elle permet de comprendre l'état de la société, pas seulement, bien entendu, avec la physique, mais la sociologie, l'économie, l'ethnographie, aussi l'histoire, pour essayer de voir dans le passé ce que nous avons fait devant telle ou telle situation. Et puis, ayant détecté des possibilités de percées scientifiques, éventuellement des cheminements qui vont nous conduire à des ruptures scientifiques, elle construit cet avenir elle-même, après avoir, non pas prévu l'avenir, comme le disait Hugues, mais après avoir détecté un certain nombre de possibilités. Alors, s'agissant du futur, bien entendu, on songe aux progrès, aux percées importantes réalisées depuis 20 ou 30 ans par la biologie et la génétique, qui auront une incidence sur la santé, sur l'agronomie, aussi aux possibilités de la physique, même éventuellement avec des ruptures dans le futur, des nouvelles théories expliquant les relations entre la matière et l'énergie, et puis au progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique, on en reparlera peut-être, qui ont une incidence économique à moyen terme et même peut-être à court terme sur le futur de l'emploi. Et de nos sociétés.
Et de nos vies, quotidiennes. Autour de la question comment construire l'avenir, comment le prévoir, pour le meilleur comme pour le pire, à tort ou à raison, je vous propose de nous projeter quelques années en arrière pour écouter comment on prévoyait l'avenir. C'est le mix Retour vers le futur d'Apolline Vernon-Raison.
En 2015, le monde attend toujours le manteau auto-ajustable ou celui qui sèche automatiquement après la pluie.
Demain, des produits chimiques injectés à nos petits-petits-enfants leur permettront de choisir à leur volonté, de créer même des ingénieurs, des savants et les artistes que leur société leur demandera.
Et l'image traversera les murs, ira se promener chez le voisin.
Il sera possible de projeter une image sur son lit et même de la toucher.
Cyprien, je te défends de caresser les images.
Dans 3 ans, le Concorde mettra 2h30. Dans 15 ans, Montréal, Paris en 1 heure.
Il y a aussi les souliers auto-lassants.
C'est toujours amusant de faire de la prospective et de se projeter dans les 20 ou 30 prochaines années. Et c'est surtout très amusant, si nous sommes encore en vie, de regarder 20 ou 30 ans après ce que nous avions dit 20 ou 30 ans auparavant.
Ce sont, si je puis dire, des racines de futurs possibles.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que 2050 est une période qui n'est pas vraiment configurée, pas vraiment décrite. On répugne d'ailleurs à la représenter, puisque quand on le fait, c'est plutôt sous l'égide de la catastrophe.
Demain, il sera plus difficile de naître et plus difficile de mourir.
On pourrait très bien vivre sans contraintes domestiques 24 heures sur 24, mais est-ce bien là la qualité de la vie ?
Hugues de Jouvenel, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Je voudrais réagir à ce qu'on vient d'entendre, et puis je voudrais aussi revenir une seconde sur ce que vous demandiez à Pierre Papon dans ses fonctions de vigie scientifique et technologique, parce que avant de parler de l'avenir, le grand défi en prospective, c'est déjà d'essayer de se représenter le présent, en essayant de faire le tri entre ce qui est de nature conjoncturelle, anecdotique, qui souvent fait la une des médias, et puis d'un autre côté, ce qu'on appelle les tendances lourdes hein, ou émergentes, ou aujourd'hui des émergences, hein, pour se poser dans un deuxième temps, la question de savoir comment ces différentes tendances peuvent se perpétuer, être infléchies, connaître des ruptures sous l'effet de différents facteurs et de différents acteurs.
Donc faire une sorte d'état des lieux de ce qui se passe vraiment.
Toute démarche prospective exploratoire, l'exploration des futurs possibles, commence par ce défi qui est d'essayer de nous représenter le monde contemporain au travers de l'ensemble de ses dimensions et dans sa dynamique temporelle longue. Alors ça, c'est la réaction sur le terme de vigie dont j'avais envie de vous faire part. Maintenant, par rapport à ce que nous venons d'entendre, moi j'ai toujours une petite inquiétude. Je pense que la prospective, c'est pas le nouveau nom d'un jeu de devinette. Il s'agit pas de deviner des choses, il s'agit d'identifier des forces, des tendances, éventuellement des technologies qui sont en développement.
Et justement, quelles seraient les forces aujourd'hui? Puisque vous dites, Hugues de Jouvenel, qu'il faut commencer par le présent. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, quelles sont les forces finalement, les tendances lourdes de nos sociétés aujourd'hui et qui devraient se poursuivre dans les futurs possibles 2030-2050?
Je vais revenir sur les tendances lourdes, mais je vais reprendre ce que disait Pierre Papon. Manifestement, dans les tendances lourdes, il y a des progrès sans précédent dans le domaine des sciences et des techniques, hein. Pas seulement dans le numérique, mais dans les biotechnologies, etc. Bon. Maintenant, de là à imaginer que la société va changer au rythme où les technologies se développent, il y a un grand pas que je me garderai bien de franchir. Et puis à supposer que ces technologies se diffusent dans le corps social, reste là une troisième question qui est de savoir quels sont les usages qui vont être faits par ces technologies. Et ces usages, aujourd'hui, ils peuvent déboucher sur le pire comme sur le meilleur. On le voit très bien, par exemple, dans le domaine du génie génétique, avec d'un côté le rêve fou des transhumanistes de pouvoir fabriquer toute pièce le surhomme, l'homme-dieu, l'homme idéal, et puis d'autres qui, au contraire, vont mettre en avant les possibilités qu'offre ce génie génétique de prévenir un certain nombre de maladies et éventuellement d'accroître certaines performances du corps ou du cerveau, mais c'est pas la même chose que le transhumanisme.
Pierre Papon, parmi les tendances lourdes, je voulais revenir aussi sur la question, vous travaillez beaucoup sur les questions énergétiques. Oui. Il y a une tendance lourde aujourd'hui qui est celle du constat que notre Terre a des ressources qui sont limitées. sociétés, que la question énergétique est fondamentale. Il y a des tendances lourdes comme ça, il va falloir faire avec.
Oui, il y a trois tendances lourdes auxquelles on est confronté, notamment pour l'énergie. D'abord, c'est le changement climatique qui est une tendance lourde d'ici la fin de ce siècle, avec un réchauffement de la planète compris dans une fourchette de 2 à 4 degrés, suivant les estimations des experts, entre les débuts de l'âge industriel et la fin de ce siècle. Ça, c'est une tendance lourde. La deuxième tendance lourde, c'est ce que vous disiez à l'instant, le caractère fini des ressources, hein, qu'il s'agisse de pétrole, de charbon, de terres rares, hein, comme on en parle de temps en temps. Et puis la troisième tendance lourde, on en dira peut-être quelques mots après, c'est la nécessité d'un développement d'un certain nombre de pays, en particulier les pays africains, certains pays asiatiques de l'Asie dite en développement, qui ont besoin d'énergie pour se développer, qui ont besoin de ressources et qui ont besoin de capitaux. Et toutes ces questions ne seront pas résolues grâce à la science. La science peut y contribuer, bien entendu.
Autour de la question, comment construire l'avenir? On va y revenir, mais d'abord, on se propose de nous hâter lentement à l'écoute des Kills sur RFI. Future starts slow. Starts Slow de Kills sur RFI. Autour de la question comment construire notre futur, nous faisons de la prospective en ce 2 janvier avec nos invités de la revue Futurible, Hugues de Jouvenel et Pierre Papon. Nous tentons d'imaginer les avancées et les ruptures scientifiques et technologiques qui nous attendent dans un futur pas si éloigné que cela et pourtant toujours aussi imprévisible. C'est tout le sens de la question soulevée par Mathieu Novak du mensuel Science et Avenir.
Est-ce que les voitures autonomes qui sont en train d'émerger aujourd'hui de façon très concrète ne sont pas l'archétype de la révolution annoncée depuis plus d'un siècle, mais finalement qui n'était pas prédite 10 ans auparavant et qui arrive simplement parce qu'un certain nombre de technologies arrivent à maturité en même temps?
Qu'en pensez-vous, Hugues de Jouvenel? Qui veut répondre? Pierre Papon?
Pierre.
Alors, les voitures autonomes, on en a beaucoup parlé il y a quelques mois au moment du salon de l'auto, ici à Paris, mais on en parle aussi ailleurs, évidemment. Certains constructeurs automobiles étant très, très optimistes, hein, et nous prévoyons, entre guillemets, hein, bien entendu, comme disait Hugues tout à l'heure, il faut se méfier de ces expressions, pour environ 2040. Bien. Alors, c'est vrai que les progrès de l'intelligence artificielle, de la robotique, des capteurs de signaux de ces 20 ou 30 dernières années permettent effectivement d'envisager une voiture à conduite autonome sans conducteur, ou le conducteur étant, son rôle étant passif. Mais ce que nous lisons d'ailleurs à Futurible, qui a consacré plusieurs papiers à ces questions-là, c'est qu'il faut franchir plusieurs étapes. Et pour que la voiture voiture soit complètement autonome, avoir des garanties sur la sécurité des systèmes et leur sûreté, les problèmes évidemment d'assurance pour le passager puisqu'il n'est plus conducteur.
Et les questions éthiques que ça peut poser aussi.
Donc là, je mettrais pour ma part, je ne sais pas ce qu'en pense Hugues de Jouvenel, mais plusieurs points d'interrogation. Je reviens un siècle en arrière. 1899, première voiture qui franchit les 100 km à l'heure sur route. C'était une voiture belge. Son nom était, son conducteur avait comme nom, la Jamais Contente, parce que c'était une voiture électrique, autonomie 20 km. Et à ce moment-là, on a conclu, mais l'avenir de la voiture, c'est la voiture électrique. 1899. Il y a d'ailleurs une dispute entre Edison aux États-Unis qui vendait l'électricité et un de ses ingénieurs qui s'appelait Ford et qui lui dit donc, patron, vous vous trompez, c'est la voiture à essence. Et d'ailleurs, Ford a quitté Edison et a créé son usine d'automobile à Detroit, voiture à essence.
Mais en même temps, qui s'était trompé à l'époque, puisqu'il y a bien eu la voiture à essence, c'est que maintenant il y a les voitures électriques.
Oui, mais ça veut dire qu'il faut donner du temps au temps. C'est-à-dire prendre son temps pour tester des techniques et les progrès d'un certain nombre de techniques ne sont pas aussi rapides qu'on veut bien le dire.
Ce qui veut dire qu'on va peut-être plus vite que la machine, si j'ose dire, de Jouvenel, dans nos prospectives un peu hâtives autour de la technologie.
Ça veut dire surtout qu'une des grandes difficultés en prospective, c'est les échelles de temps. Le véhicule autonome, oui, dans le futur, mais c'est quand le futur ? Est-ce qu'on raisonne sur le futur à 5 ans, le futur à 2030, le futur à 2050, c'est pas la même chose. Le véhicule autonome, si je reste sur cet exemple que je ne connais pas particulièrement bien, la problématique ne se pose pas de la même manière en centre-ville ou dans un espace clos comme, je ne sais pas, un aéroport. Et puis en zone rurale.
Et puis vous parliez aussi des usages que nous allons faire
Ça renvoie fondamentalement, effectivement, à ce qui est un peu mon dada par rapport à l'essor des technologies, qui est la question de la diffusion et la question des usages. Il y a 50 ans, la France était en avance sur la télématique avec le Minitel. Et on faisait tous du violon pour dire qu'on allait assister à un énorme redéploiement des activités sur le territoire national. Tintin, ça s'est pas du tout passé de cette manière-là.
Il y a eu l'explosion d'Internet.
Mais plus tard, il y a eu l'explosion d'Internet. Et c'est pas Internet qui fait le télétravail, c'est les comportements humains, c'est l'évolution des formes d'organisation prenant appui sur de nouvelles potentialités technologiques qui amènent éventuellement d'une nouvelle organisation du temps, des relations aux autres, des relations à l'espace, etc.
Donc ce ne sont pas les sciences et les technologies seulement, ce sont des outils, mais c'est la manière dont on se les approprie. Ce qui veut dire aussi que la prospective, elle est très très difficile à faire, puisque c'est nous humains qui, heureusement d'ailleurs, décidons ce que nous allons en faire ou pas.
La prospective, elle est difficile à faire. Non, elle est difficile à faire si vous avez la prétention, avec de la prospective, de prédire le futur, ce qui n'est pas du tout notre objet. Notre objet, il est beaucoup plus modeste, il est d'essayer d'explorer quel est l'éventail des possibles, avant qu'il ne soit trop tard, lorsque l'on est encore en mesure de faire des choix par rapport à ces futurs possibles. Autrement dit, l'anticipation, elle ne sert que par rapport à la décision et à l'action, et à des décisions et à des actions qui elles-mêmes vont se déployer dans un temps à venir, dont le contour, dans un environnement pour une part incertain.
Et vous dites des futurs possibles, il n'y a pas un futur possible, c'est un éventail de futurs.
Oui, futurible n'est pas la contraction de futur terrible, c'est bien celle de futurs possibles.
Autour de la question, comment si ce n'est prévoir, du moins tenter de construire justement notre avenir possible. On continue de s'interroger dans 3 minutes. Vous restez avec nous, Hugues de Jouvenel et Pierre Papon. On se retrouve juste après le flash d'info pour imaginer donc l'éventail de nos futurs possibles. A tout de suite.
De la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie. Nous continuons d'ouvrir l'éventail des futurs possibles à l'horizon 2030-2050 avec nos invités Hugues de Jouvenel, rédacteur en chef de la revue Futurible, et le physicien Pierre Papon qui en est le conseiller scientifique. Autour de la question comment construire l'avenir, quelles avancées, quelles ruptures scientifiques, technologiques vont changer nos vies pour le meilleur ou pour le pire, entre fantasmes et réalité, beaucoup d'interrogations en perspective.
Est-ce que la science va réenchanter le monde ? Est-ce qu'il croit à ça ? Ou au contraire, est-ce qu'il va toujours y avoir cette sorte de défiance et de crise vers la chose scientifique et technique ? Et la deuxième question qui est un peu liée à ça, c'est la technologie permet aujourd'hui d'agir sur le vivant, on l'a vu déjà avec les nanos, et donc ça donne quelque part une sorte de moyen d'accès à l'humain pour prendre le relais de l'évolution, c'est ce que certains appellent le transhumanisme. Et comment ils voient ça ? Est-ce que la chose technique doit ou ne doit pas permettre à l'homme de se changer et d'évoluer plus rapidement face aux changements mondiaux, climatiques et autres qui nous attendent que ne le ferait la simple évolution darwinienne ?
C'est le physicien Christophe Vieux du CNRS qui travaille notamment sur les nanotechnologies pour la santé, qui vous interroge sur nos capacités scientifiques, technologiques, capables désormais de prendre le relais de l'évolution de Jouvenel. Est-ce que ça doit faire peur ? Est-ce que nous sommes en train de devenir des apprentis sorciers qui iraient plus vite que l'évolution naturelle ?
Je crois qu'il y a un double mouvement. Je serais content de savoir si Pierre Papon partage cet avis, entre des avancées considérables en matière scientifique et technique et des technologies qui sont radicalement différentes par leur nature des technologies nouvelles des générations précédentes et qui sont des technologies, je parle plus des technologies que des sciences, qui sont des technologies dont les usages sont extraordinairement ambivalents, donc peuvent déboucher sur le meilleur comme sur le pire. Mais simultanément, je pense que le progrès a du plomb dans l'aile, la notion de progrès, la confiance dans l'idée de progrès a du plomb dans l'aile, et le progrès souvent est lié à l'idée de progrès scientifique qui vont nous permettre de faire toujours plus, éventuellement de manière plus rentable, etc.
Mais le toujours plus ne marche plus, donc
le toujours plus ne marche
plus. Et la science fait peur parfois.
Et la science n'est pas nécessairement vertueuse. Vous me direz qu'on a quand même dans notre histoire au XXe siècle quelques bonnes raisons de penser que la science n'a pas que des retombées positives. Donc il y a une interpellation de la société vis-à-vis de la science, où il y a une science qui désormais est tenue en bride, si je puis dire, par la société, qui demande à ce qu'on en discute, qui demande à ce qu'on puisse être davantage éclairé sur ses avantages, ses vertus et ses dangers.
Pierre Papon, sur cette question de peur face à la science et aussi du fait que, notamment dans les biotechnologies, nous sommes capables peut-être de fabriquer du vivant, en tout cas de le manipuler. La question du transhumanisme, il y a de quoi avoir des craintes ?
Je répondrai d'abord à la première question là, de ce chercheur. Est-ce que la science va réenchanter le monde ? Moi, je ne pense pas que la fonction de la science, c'est de réenchanter le monde, mais c'est de tenter de répondre à des questions que l'humanité se pose depuis des millénaires. Qu'est-ce que la vie ? D'où venons-nous ? Qu'est-ce que l'univers ? Qu'est-ce que la matière ? Comment est constituée la matière ? C'est cela, la fonction, je dirais, primitive de la science depuis des siècles. Et bien entendu, en répondant à ces questions, en élargissant, en se mariant, si je puis dire, avec la technologie, la science ipso facto produit des techniques ou est à l'origine de techniques qui vont transformer profondément la société et qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la société. J'en reviendrai aussi à vos deux interrogations et puis à celle de l'intervenant. Il y a toujours eu une critique de la science et du progrès, depuis les Lumières. Dès la fin des Lumières, vous avez eu un débat auxquels ont participé, en France à tout le moins, des auteurs bien connus. Chateaubriand, une fois la Révolution terminée, a tiré sur la philosophie des Lumières. Baudelaire a critiqué fortement les découvertes, l'énergie, le gaz, etc. Lamartine a pris un point de vue complètement contraire, en plaidant pour le progrès, y compris pour les chemins de fer, en dépit des accidents de chemin de fer, etc. Donc il y a toujours eu une critique du progrès, et y compris de la science, parce que ça n'a jamais été un long fleuve tranquille.
Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça s'accélère, ou qu'en tout cas, on est beaucoup plus impacté, on a peut-être cette impression-là, plus impacté par ces innovations scientifiques et surtout technologiques.
Que le constat qu'il faut faire, c'est qu'effectivement, depuis deux ou trois décennies, la science, en particulier la science du vivant, a abaissé ou annulé ou annihilé la barrière entre le naturel et le technique. Dans la mesure où on sait manipuler maintenant le génome, on sait transformer des gènes, on sait les neutraliser dans un génome d'une bactérie, éventuellement d'un humain, pour faire des thérapies géniques. Et que cela, ça touche l'individu profondément, bien plus dans une certaine mesure que Internet, qu'un téléphone portable ou autre chose. Donc ça, je pense que c'est un élément nouveau par rapport à la science du début du XXe siècle, voire des années 50.
Et la science peut transformer l'humain, enfin toucher à l'humain,
touche à l'humain. Elle touche à l'humain. Je me garderai de dire transformer l'humain. Elle touche à l'humain, elle peut le réparer. On savait faire des prothèses, mais on sait faire en nombre limité des thérapies géniques, notamment pour guérir des maladies d'origine héréditaire sur des jeunes enfants. Il y a eu un certain nombre de travaux très importants, je dirais, avec des applications à l'hôpital des enfants malades à Paris. Et c'est positif. Mais évidemment, ça interpelle sans doute le public qui peut avoir crainte d'un docteur Folamour ou d'un Frankenstein.
Alors comment choisir justement notre futur en toute connaissance de cause? Je propose un nouvel éclairage, c'est celui du biologiste Jacques Testard, le père scientifique du premier bébé éprouvette. Il était récemment notre invité, il nous faisait partager son parcours de chercheur solidaire et indigné et son engagement aussi au sein de l'association Science Citoyenne. On l'écoute.
La prospective de l'association Science Citoyenne sur 2030, c'est ce qu'on a écrit dans un bouquin qui s'appelle Labo Planète, qui est sous-titré « Comment 2030 se prépare sans les citoyens ?» Parce que nous, ce qu'on voit, c'est pas seulement les possibilités techniques, les perspectives ouvertes et les marchés à prendre. Ce qu'on voit, c'est comment la démocratie pourrait s'impliquer dans ces processus et comment les citoyens pourraient décider de ce qu'ils souhaitent aujourd'hui et demain.
Et vous avez des propositions en ce sens?
J'ai des propositions de façon d'arriver à mettre les citoyens en état de décider, parce qu'ils ne le sont pas au quotidien. Mais on peut, dans des situations particulières, par des procédures particulières, on peut les mettre en situation de décision. Et ça me paraît être le plus important de tout aujourd'hui.
Qui veut réagir à ces propos de Jacques Testard? C'est important, c'est fondamental d'impliquer les citoyens dans les choix, dans l'éventail de choix pour notre futur, en toute connaissance de cause, justement, de les informer, Hugues de Jouvenel.
Moi, je veux bien en dire un mot, parce que ça renvoie à une question qui, me semble-t-il, est tout à fait importante aujourd'hui. C'est comment améliorer le fonctionnement de nos démocraties sans tomber dans la démagogie et vouloir consulter les citoyens sur tout et n'importe quoi sans qu'ils aient au préalable les éléments d'information, voire les connaissances nécessaires pour pouvoir en débattre utilement. Et je pense que là, on est le citoyen aujourd'hui, il a l'impression, y compris grâce à Internet et à tous ces autres systèmes, d'avoir accès à toute l'information du monde. Le vrai défi, c'est pas d'avoir accès à toute l'information du monde, c'est d'être capable de discerner dans toutes ces informations, celles qui sont pertinentes, correctes, robustes, et puis celles qui ne le sont pas. Pour faire vite, je dirais, Internet est peut-être la plus belle encyclopédie du monde, mais c'est en même temps la plus grande poubelle planétaire.
Et donc, en tant que prospectiviste, vous essayez en fait quoi? De faire le tri et de nous informer justement, on parlait de tendances lourdes au début de cette émission, des tendances lourdes qui vont subsister et qui ne sont pas dans tout ce fatras d'informations anecdotiques.
En prospective, il y a vraiment deux aspects. Il y a un aspect qui est l'exploration des futurs possibles, qui relève d'un travail d'analyse portant d'abord sur le présent et ensuite qui consiste à essayer de se demander, de réfléchir à la manière dont les tendances qu'on a identifiées peuvent se poursuivre ou s'infléchir ou être l'objet de ruptures. Et puis, quelles sont les surprises qui peuvent émerger, les tendances nouvelles qui peuvent émerger. Ça, c'est l'avenir comme territoire à explorer. Qui ne m'intéresse que dans la mesure où je me pose une deuxième question, qui est que voulons-nous, que pouvons-nous faire? Quel futur souhaitable voulons-nous essayer de construire? Et avec quels moyens, quelles alliances, quels acteurs?
Et ensemble, tous sur cette terre, parce que parmi les tendances de fond qui se dégagent, il y a évidemment la tendance de fond démographique. Nous serons de plus en plus nombreux sur Terre et il faut en tenir compte, évidemment, dans toute tentative de prospective.
J'aimerais bien que vous ayez raison, mais là, vous êtes en train de faire une hypothèse extrêmement audacieuse en imaginant que tous les individus du monde ont la même représentation du souhaitable, ont les mêmes intérêts, alors qu'en réalité, dans la prospective, entre en ligne de compte très largement l'identification des acteurs, de leurs pouvoirs respectifs, des finalités différentes qu'ils poursuivent, des idéologies qui les animent, des valeurs. Il faut tenir compte de tout ça. On appelle ça souvent des variables molles, mais c'est pas parce qu'elles sont molles et qu'on a donc plus de peine à les mesurer et qu'elles jouent un rôle moins important que des variables dures qu'on pèse en kilogrammes ou qu'on pèse en dollars.
Donc comment fait-on pour tenir compte?
Néanmoins, j'esquive pas votre question sur la démographie. J'ai bien compris que vous vouliez quand même savoir si on pouvait énoncer quelques certitudes. Il y a une chose qui apparaît très fortement probable, pour ne pas dire complètement certaine. Il y a une chose qui est certaine, c'est l'incertitude. Mais il y a une deuxième chose qui apparaît très fortement probable, c'est l'augmentation de la population mondiale. À des rythmes différents suivant les régions. La population de l'Afrique d'ici 2050 risque fort de doubler. Elle rejoindra à ce moment-là l'Afrique à peu près la population de l'Asie. Asie plus Afrique, 80% de la population mondiale y restera.
Ça va changer tout le visage de la Terre.
Ça va changer tout le visage de la Terre. Deuxième tendance qui elle aussi est très lourde, même si encore une fois nul ne peut les garantir à 100%, c'est le vieillissement démographique, qui est d'abord la conséquence de la baisse de la fécondité, ensuite la conséquence de l'allongement de l'espérance de vie. Allongement de l'espérance de vie qui ne va peut-être pas durer au rythme où nous l'avons connu dans nos pays industrialisés. Bon. Mais le vieillissement démographique, c'est-à-dire que la proportion des jeunes dans la population totale va continuellement diminuer, alors que la proportion des personnes dites âgées va continuellement augmenter, et que ceci est un défi aujourd'hui majeur dans les vieux pays industrialisés, d'abord au Japon, ensuite en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, en France...
Et qui sera un défi majeur ensuite pour le reste du globe.
Et qui va être un défi absolument colossal pour la Chine à l'horizon 2030, à telle enseigne qu'un certain nombre de bons spécialistes disent le grand risque pour la Chine, c'est de devenir vieille avant d'avoir eu le temps de devenir riche.
Autour de la question comment construire, comment imaginer notre avenir commun, on écoute Alpha Blondie sur RFI. Demain t'appartient.
Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi.
Chaque parole est un chemin, lorsqu'elle rend meilleur les hommes qu'on fera demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins.
Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain t'appartient, relève le défi. Vas-y, vise plus haut, change ta vie, demain.
suis bêtement en train de me plaindre, retranché dans mon entêtement. On dit que demain t'appartient, mais demain c'est quoi? Demain c'est rien, tu sais, pour moi demain c'est loin. On vit au jour le jour, jusqu'au jour où on t'expulse. Vexé comme lorsqu'une ex t'exclut sans les excuses. Aujourd'hui nous fait du mal, faut que demain pardonne. Alpha, tu sois avec moi, ça change déjà la donne.
Change ta vie, demain t'appartient, relève. J'en suis certain. Bâtir un empire pour les enfants qui naîtront demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Et je chante pour me libérer.
Blondie sur RFI, demain t'appartient. Quel défi et comment les relever, Pierre Papon, pour l'Afrique?
Alors, l'Afrique est un continent avec beaucoup de ressources, notamment des ressources énergétiques, mais s'agissant de l'Afrique et puis aussi de l'Asie en développement, le Bangladesh, voire le Pakistan, il y a quand même, je dirais, une question d'équité ou d'inéquité dans le développement qui n'est pas tolérable à l'échelle mondiale. D'ailleurs, l'ONU s'en était préoccupée en 2015 avec ses projets pour les développements durables. Alors, en Afrique, non seulement, effectivement, il y a une démographie galopante, notamment et surtout dans l'Afrique subsaharienne, mais on peut faire quelques constats. La consommation d'énergie par tête d'habitant dans les pays d'Afrique subsaharienne est à peu près 10 fois moins importante ou 9 fois moins importante qu'en France. La consommation d'électricité dans toute l'Afrique subsaharienne est équivalente à la consommation d'électricité de la métropole new-yorkaise. Et donc, on ne peut pas vivre décemment dans un pays au 21e siècle si on n'a pas un minimum de kilowattheure à sa disposition. Moi, je suis frappé, je suis allé souvent à Yaoundé, qui est une ville que j'apprécie au d'ailleurs, qui est la capitale du Cameroun, un pays qui a quand même des ressources aussi énergétiques. Eh bien, le soir, il y a une grande partie des quartiers de Yaoundé qui sont dans l'obscurité, qu'il n'y a pas l'électricité. Donc, il n'y a pas moyen de faire marcher des pompes pour pomper l'eau.
Ça n'est pas tolérable et ça ne sera pas tolérable.
Avec un urbanisme galopant dans un certain nombre de grandes métropoles d'Afrique. Et là, c'est quand même un problème mondial qui peut être la source, je dirais, de tensions régionales importantes, de mouvements migratoires très importants, dont finalement les pays voisins ou les continents voisins auront à répondre, si je puis dire.
Donc ça, c'est un problème majeur. Il y a des pistes pour...
Il y a des pistes. Ils ont des ressources. Ils ont du pétrole. Alors, bien entendu, on parle du changement climatique et de ne pas trop consommer de combustibles fossiles. Ils ont des possibilités en Afrique centrale et orientale de construire des barrages dont il y a des ressources. Et là, c'est un problème non seulement de développement de leur part, d'avoir des capacités de bien gérer leurs affaires, et puis de solidarité internationale par des programmes multilatéraux pour les aider. Faire de la formation d'experts et utiliser à bon escient les énergies qu'ils ont.
Autour de la question comment construire notre avenir, notre futur commun, je propose aux prospectivistes que vous êtes un dernier éclairage. C'est celui du philosophe des sciences et des techniques Vincent Bontemps, qui fait lui une distinction intéressante, vous me direz ce que vous en pensez, entre le futur, les futurs et l'avenir.
Le futur, les futurs, on devrait dire d'ailleurs, ce n'est pas l'avenir. L'avenir, comme son nom l'indique, c'est ce qui est le plus probable comme pente évolutive. Ça reste à venir. Voilà. Et c'est une façon finalement paresseuse que de s'installer dans l'attente de l'avenir, un peu fataliste. Les futurs signifient des choses, c'est un rapport avec l'indécidabilité. Les technologies sont à prendre dans des perspectives justement de rendre possibles les futurs. Voilà. Ou d'en rendre certains impossibles. Mais une réflexion par rapport à cette pluralité des devenirs possibles et sur le fait que dans un premier temps, ces choses se présentent pas comme des risques que l'on peut quantifier ou des choses dont on peut trancher, a priori, si c'est possible, impossible. Non, ça se présente comme des orientations possibles et des choses qu'on pourrait dire virtuelles, voilà. Et à nous de prendre le monde tel qu'il est actuellement et de prendre aussi toutes ses potentialités et de nous organiser pour aller vers des futurs souhaitables et désirables plutôt que vers d'autres qui sont peut-être désirables, mais pas par les mêmes personnes, qui sont en tout cas moins éthiques, moins solidaires, moins intéressants pour la majorité des gens et des êtres vivants.
C'est à nous de choisir nos futurs possibles. Vous voulez réagir à cette réflexion du philosophe des sciences et des techniques Vincent Bontemps, Hugues de Jouvenel ?
Oui, oui, je réagirais volontiers parce que si je suis le premier à dire l'avenir ne se prévoit pas, il se construit au travers de décisions et d'actions humaines. Heureusement, aucun d'entre nous n'a tout pouvoir pour décréter un avenir et l'imposer aux autres. Donc il y a différents acteurs, il y a des jeux de pouvoir qui s'exercent, il y a des luttes, il y a des conflits qui s'exercent. Et donc je ne dirais pas que nous avons, parce que je ne sais pas qui est ce nous, que nous avons tout le pouvoir de tout faire. Il y a les ressources de la planète qui sont limitées, comme l'a expliqué Pierre. Il y a, etc., etc. Il y a les progrès de la science et de la technologie avec leurs bienfaits et leurs dangers. Bon. Mais bon, comme je vois le temps qui passe, je veux revenir une seconde sur ce qu'a dit Pierre, parce que tel que tu as parlé de l'Afrique, on pourrait imaginer que tu voudrais transposer le mode de vie de l'Occident en Afrique.
Or, c'est autre chose qu'il faut inventer.
Aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à un défi, les Africains comme les Européens, comme les Asiatiques, qui est de réinventer d'inventer tout court des modèles de développement alternatifs qui soient compatibles avec nos cultures, nos agricultures, nos histoires, nos géographies, etc.
Et, ça, c'est peut-être du côté du Sud ou d'ailleurs où l'on y est forcé qu'il y aura peut-être le plus d'inventivité pour être dans une note de un peu plus d'espoir ou...
On peut le dire comme ça si vous voulez. En même temps, reconnaissons que moi j'ai aussi été pas mal en Afrique. Les contraintes qui pèsent sur un certain nombre de gens en Afrique sont telles qu'ils ont moins de facilité pour innover. Mais ça ne veut pas dire pour autant que l'innovation doit venir du Nord et être transposée dans le Sud. Je pense ça d'ailleurs que Pierre, tu penses ça
tout.
Donc c'est pour ça que je me permets d'apporter ce contrepoint.
Pierre Papon, les futurs que nous pouvons inventer, est-ce que vous êtes, alors je ne sais pas si on peut demander ça à des prospectivistes, mais pessimistes, optimistes, quelles pistes, quelles cartes avons-nous en main ?
D'abord, on a la carte de l'imagination. Avec la science, la technique, les sciences, dans la science je mets les sciences sociales bien sûr, la carte de l'imagination pour transformer le monde, avec des variantes, je suis d'accord avec ce que vient de dire à propos de l'Afrique, ils ont des richesses culturelles et leur futur ne sera pas le même que le nôtre. On pourrait dire en même temps du Japon, qui est un pays je veux dire très développé, mais qui a su faire un bon mariage avec sa culture. Donc il y a l'imagination, il y a l'éducation, qui est notamment, alors là je reviens à l'Afrique, une nécessité en particulier pour la démographie. Donc ça, ce sont deux cartes qu'il faut jouer et sur lesquelles, je dirais, l'humanité a joué depuis des siècles, avec plus ou moins de bonheur. Donc ça, c'est essentiel. Et puis, je reprends ma casquette de scientifique, bien sûr, la science pour essayer de faire évoluer le monde.
Imagination, éducation, science et conscience, de Jouvenel, ça serait pas mal comme carte en main, comme conclusion de cette émission prospective.
Bonne feuille de route pour démarrer l'année, oui.
Bonne feuille de route. Et vous êtes optimiste ou pessimiste, Hugues de Jouvenel ?
Je suis profondément pessimiste et totalement volontariste.
Et ça aide, ça. Ça peut aider. Ça fait aller de l'avant.
Mais pessimiste, parce que reconnaissons quand même qu'on est face à un monde extraordinairement turbulent, avec une multiplication des risques de toute nature. Que nous sommes même dans cette Europe extraordinairement privilégiée, confrontés à des problèmes très graves, y compris le risque d'un essor du populisme, et que néanmoins la balle est dans notre camp et qu'il faut que nous prenions nos responsabilités pas qu'on reste en spectateur, mais qu'on devienne des acteurs du futur.
Merci infiniment d'être venu en direct pour nous rappeler que nous pouvons être des acteurs de notre futur. Cette émission était largement inspirée par le numéro de décembre de la revue Futurible. Merci Pierre Papon, merci Hugues Jouvenel.
Merci à vous.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
Demain, plongée à remonter le temps dans la grotte de Lascaux avec une visite guidée par le paléo-anthropologue Yves Coppens de Lascaux 4, le facsimilé de ce chef-d'œuvre de l'art pariétal qui vient d'ouvrir ses portes au public. À demain pour décrypter dessins et gravures préhistoriques avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, amis auditeurs, portez-vous bien, restez curieux, surtout gardez l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI.
Priorité santé.